Bonsoir mes chers auditeurs, ravi de vous retrouver dans une période tellement triste que je suis heureux de retrouver des amis. Bien entendu Pierre Lours,
bonsoir,
fidèle au poste, enfin qui nous a manqué la semaine dernière parce qu'il était sur de hautes montagnes mystérieuses. Donc j'aimerais bien que vous nous touchiez deux mots à l'instant mon cher
oh,
Pierre.
Bah, écoutez, j'étais entre le Ventoux et les dentelles de Montmirail.
Ah, on va y venir. Je voudrais présenter un autre vieil ami, nous connaissons depuis plus d'un demi-siècle. Je ne sais pas d'ailleurs comment nous sommes connus. François Costantini, on ne se quitte pas.
Bonjour, cher Paul-Marie, merci de votre invitation.
Le club Eleutheria, on a fait de la politique lointainement au XXe siècle.
Oui, du côté de chez Séguin un petit peu.
Du côté de chez Séguin.
Et après dans tout ce qu'il y avait de souverainiste. Voilà.
Alors vous faites partie des vrais amis, parce que quand vous faites quelque chose, vous me l'envoyez, soit des livres, vous en avez fait plusieurs, qu'il me soit permis de citer le très beau livre. Vous avez été primé d'ailleurs.
Non, je n'ai pas été primé.
Vous avez eu de grands compliments pour un livre, sur le Liban, que je crois était de 2017.
Et réédité en 2025, actualisé.
Ouais. Voilà, avec une nouvelle préface, etc., qui s'appelait « Le Liban ».
Histoire et destin d'une exception.
Histoire et destin d'une exception, évidemment.
Aux éditions Perspectives Libres.
On va ne pas parler que du Liban, nous en avons parlé la semaine dernière avec Antoine Assaf, mais on va en parler encore. Nous allons en parler encore aujourd'hui parce que ça devient une obsession. Je veux à tout prix préserver le Liban de tant de forces contraires qui l'assaillent. Parce que je pense vraiment que si le Liban cède, vraiment le monde sera très dépeuplé pour nous.
Totalement. Il y avait deux personnes qui avaient cité, notamment le pape Jean-Paul II, qui avait dit que le Liban était un trésor pour l'humanité, et quand il disparaîtra, en effet, l'humanité aura moins de trésors. Et même paradoxalement,
c'est peut-être une des raisons pour lesquelles son successeur, Léon, est allé au Liban.
Alors, son premier voyage, en effet, le pape Léon XIV est allé, en fait, un voyage en deux temps, d'abord en Turquie pour les 1700 ans du concile de Nicée. Mais je pense qu'il a surtout voulu aller au Liban pour envoyer un signal. Voilà.
Oui, il le fallait. Et on annonce d'ailleurs, je le dis de façon un peu prématurée, un voyage du même pape, peut-être plus énigmatique quant à son ressort, en Algérie au mois d'avril.
Oui, alors je pense que c'est assez personnel, parce que n'oublions pas que le pape Léon XIV est un augustinien. Je crois que c'est les 1800 ans.
Il est mort en 400.
Alors ça doit être les 1500 ans de la mort ou de la naissance de saint Augustin.
490, 95. Je sais pas.
Il y a un anniversaire sur saint Augustin et il y va. Je pense du fait de sa relation affective particulière.
C'est assez discuté.
C'est un augustinien. Hein, je crois qu'on dit bien augustinien d'ailleurs. Robert Prévost, devenu Léon XIV, est rentré très jeune chez les Augustiniens.
Ouais. Oui, mais il y a peut-être des ressorts géopolitiques. Je ne suis pas sûr que ça plaise à tout le monde. En tous les cas, pas à notre invité de la semaine prochaine. Je l'annonce. Je crois que nous serons le 1er avril. Nous aurons l'ambassadeur Xavier Driancourt, c'est pas Pierre. Xavier Driancourt qui viendra nous parler à cette occasion de l'Algérie, bien entendu, il y a quelques développements, et puis il y a ce voyage du pape sur lequel il a quelques idées précises. C'est pas mal que nous parlions de l'actualité papale, mais je m'empresse de dire que vous avez aussi écrit plusieurs autres livres, François Costantini, notamment un livre que vous m'avez gentiment envoyé, alors qu'il est très précieux et un peu volumineux, qui s'appelle « Les relations internationales en fiche » aux éditions Ellipse, oui. Publié il y a quelques mois. Et d'ailleurs, à ce sujet, je vous poserai aussi des questions. Et puis, alors, vous m'envoyez des conférences, François Costantini, dont celle que vous avez faite récemment, qui m'intéresse beaucoup. On pourra commencer par là tout à l'heure. Sur le, au cercle Aristote sur l'antifascisme, ouais. Ça pose plein de questions.
Un vieux roman, une vieille histoire, l'antifascisme.
C'est une très belle vidéo, on la trouve facilement d'ailleurs.
Sur le site du cercle Aristote, de notre ami Pierre-Yves Rougeron.
Voilà, sur le site de Pierre-Yves Rougeron et du cercle Aristote, bien sûr. Mais voilà, je vous remercie beaucoup pour m'envoyer vos livres. Et vous voyez, de temps en temps, je pense à vous. Il y a longtemps que je voulais vous inviter. Tout le monde vous connaît parce que vous avez une émission sur Radio Courtoisie le lundi soir.
Le lundi sur 4, oui.
Un lundi sur quatre. Et en tous les cas, je pense qu'on peut se référer à ces deux livres. Donc j'en viens à vous, et sur l'antifascisme, et sur le Proche-Orient, et sur les relations internationales, et sur le Liban. Liban, dont nous parlons un peu au téléphone avec Philippe de Saint-Robert. J'ai tout fait, on peut dire, pour qu'il soit avec nous dans le studio. Il n'est pas souvent à Paris, il y est, et nous ne l'aurons finalement que par téléphone. Alors, mon cher Pierre, petite introduction sur votre escapade de la semaine dernière. Nous sommes en pleine actualité de Carême, Pâques approche, et je me dis souvent qu'il ne faut pas réduire, expression de catholicité, notre foi, bien entendu pas à la messe dominicale, encore que pendant la période de Carême, il y a beaucoup de messes, et plus de monde que d'habitude en messe du soir et du matin. Ça peut faire du bien de commencer une journée par une messe, voilà. Il n'y a pas que la messe dominicale, il y a aussi évidemment les pèlerinages, et puis il y a aussi les retraites, car vous fûtes en retraite.
Oui, j'étais chez les moines bénédictins du Barou, qui est une communauté chante le grégorien, qui dit ses messes en latin, et qui, en fait, ont la bonne façon pour construire une harmonie, une grande harmonie. Ce qui fait que, effectivement, cette période de Carême, la vivre dans une ambiance harmonieuse, comme celle qu'ils arrivent à créer, c'est effectivement une grande chance. Et cette harmonie, si vous voulez, il la crée grâce à trois axes. C'est tout simplement parce qu'ils prennent en compte les trois axes principaux, les trois composantes principales de l'être humain, c'est-à-dire le corps. Et les bénédictins travaillent en priant, d'ailleurs, et travaillent toujours sur des travaux très gratifiants.
Et puis, à propos sur ce chapitre, on dit toujours, on parle toujours de menu de Monaco, enfin de régime monacal, mais c'est pas nul, c'est pas si mauvais, et ni si frugal que ça, les repas dans les monastères.
Oui, bon, ça dépend.
J'ai pas commencé au Barou, à Fongombo, c'est consistant.
Oui, c'est tout à fait correct, d'autant plus que...
Il y a du vin tous les jours, par exemple. Oui, pas pendant Carême, non?
Si, il y en a.
Ah bon, mon Dieu.
Mais c'est seulement le jour de fête, il y a du vin qui est produit par le Barou et les vignerons qui sont autour du Barou, qui est un très bon vin qui s'appelle Caritas. Qu'on trouve d'ailleurs dans tous les magasins qui vendent des produits monastiques. Donc, ils prennent en compte le corps, ils prennent en compte l'esprit, et ça, si vous voulez, c'est au travers de toutes leurs lectures, la vie des saints, la philosophie, la Bible, etc. Et ils prennent en compte, évidemment, l'âme de l'être humain au travers de la prière. Et ce qu'on apprend au travers des lectures qu'on peut faire là-bas, notamment en lisant Alphonse de Ligorie, c'est que c'est la force de la prière qu'on néglige bien souvent. On a l'impression qu'on prie un peu dans le désert, même si on est très croyant. Il y a des moments où on se dit « qu'est-ce que ça va donner ?» On le fait peut-être un peu par habitude. Alors que la prière est une chose, est un moyen excessivement fort pour appeler l'attention de Dieu sur notre pauvre condition, et évidemment, rien de plus puissant que d'appeler l'intervention de Dieu. Mmh. Voilà.
Est-ce que vous faisiez toutes les messes? Vous leviez des matines?
Non. Alors, de temps en temps...
Il y a encore plus tôt, c'est l'aude.
À 3h30.
L'aude. 3h30?
Oui, mais c'est facile, c'est parce que, si vous voulez, quand vous êtes dans un monastère, vous allez à 8h30, vous êtes au lit. Parce que vous dînez à 18h30,
et ensuite vous avez compli, à quelle heure?
Vers 8h, et 8h30, donc c'est extinction des feux. Donc, c'est très facile de vous lever à 3h du matin. Ça fait 6 heures de sommeil.
Bon, certainement, oui.
Voilà. Et, bon. et donc, en plus, l'ambiance des Laudes est une ambiance assez mystérieuse. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de chants pendant les Laudes. Il y a surtout des psalmodies, surtout. Et il récite aussi des passages de l'Évangile et des commentaires de l'Évangile. D'ailleurs, quand j'y étais, c'est un commentaire du Saint-Augustin, justement. Et donc, d'ailleurs, si on en revient au voyage du pape, il va en Algérie, certes, mais je suppose qu'il va aller surtout en Kabylie, ce qui peut-être peut poser quelques difficultés avec le gouvernement algérien.
Nous verrons ça la semaine prochaine, mon cher Pierre, avec Pierre Driancourt, qui fut longtemps, et même à deux reprises, qui est assez rare, notre ambassadeur à Alger. Alors, commençons par l'actualité nationale. Je disais que c'est un peu le titre de cette émission, on a l'impression que le monde s'embrase. J'ai vu ce matin d'ailleurs des images effrayantes qui ne se passent pas au Proche-Orient, mais en Ukraine. J'ai l'impression que la violence redouble en Ukraine. Et c'est très désagréable d'avoir des images, quand on regarde son compte Twitter par exemple, des images affreuses en permanence. Je ne sais pas si je vais le garder parce que ça fout le cafard pour toute la journée. Il y a évidemment le Proche-Orient, on ne sait pas du tout comment les choses vont tourner, d'autant moins que le président Trump se ridiculise à mon avis. Enfin, on dit que le ridicule ne tue pas, mais il est presque mort, parce qu'on n'arrive pas, à moins que ce soit un très grand stratège, mais j'ai surtout l'impression qu'il se prend les pieds dans le plat. 9 morts ce matin, on apprenait ça aussi dans notre cher Liban, nous allons y venir. Et puis parmi les images violentes, vous avez tous vu, mes chers auditeurs, et je pense vous aussi, cher Pierre, et cher François, et vous, cher Pierre, vous avez vu ces images de prise de pouvoir des nouveaux élus LFI dans une dizaine de villes où ils ont été élus, le couteau entre les dents, comme s'ils prenaient d'assaut des pirates qui prennent d'assaut un navire qu'ils ont arraisonné, se jetant sur le butin. Avez-vous vu ces images?
Oui, c'est plutôt le cimeter entre les dents.
Oui, parce que...
Ou le sabre islamique plutôt entre les dents.
Est-ce que je me trompe?
C'est un symbole, parce que l'homme au couteau entre les dents, c'était le communiste. Et tous les maires communistes, notamment dits français de souche, ont été évincés
voilà.
Par, en effet, une jeune génération, la nouvelle France issue de l'immigration que célèbre Mélenchon. Donc c'est plus l'homme au couteau entre les dents, c'est l'homme au sabre, au cimeter entre les dents.
Oui, c'est vrai, exactement. Très juste remarque, parce que est-ce que je me trompe? Et je crois que par exemple à Saint-Denis... ville conquise par LFI, le maire était communiste, non je me trompe ou
Le maire sortant était socialiste et celui d'avant était communiste.
Voilà, et le maire socialiste a été sorti avec une violence qui n'avait rien de confraternel. Il a essayé de balbutier un discours d'adieu dans la salle des fêtes de la municipalité de Saint-Denis, qui est très belle par ailleurs, d'après les images que l'on en voit. D'ailleurs, je renvoie à un tweet récapitulatif de Mario Maréchal Le Pen. Je n'en dis pas toujours du bien, mais enfin, elle a fait une série de tweets. Si vous voulez vous y reporter, chers auditeurs, vous verrez qu'elle fait le tour de la question. Mais je crois qu'il y a aussi une municipalité communiste. Donc, au fond, est-ce que ça ne veut pas dire que ça n'est même plus un combat politique, mais un combat racial.
Exactement, de toute façon, les sans cachement.
Ethnique.
Pas. Jean-Luc Mélenchon, c'est pas caché. Un de ses hommes liés, Sébastien Delogu, est allé à Saint-Denis, je crois que fin d'année dernière, au début de 2026, et en disant qu'il fallait que les maires de ces nouvelles villes aient en quelque sorte la race de la majorité des habitants. C'est-à-dire soit d'origine maghrébine ou d'africaine subsaharienne, donc clair noir ou arabe, comme ils disent, et que c'était à eux notamment de prendre la majorité, c'est-à-dire la lutte des classes a été dépassée par la lutte des races. Oui. Quand on sait historiquement ce que c'est que la lutte des races par rapport à la lutte des classes, il y a lieu d'être inquiet.
Mais est-ce que ce n'est pas une faillite terrible pour la République qui nous avait promis qu'elle serait le lieu du respect des autres, du respect des opinions et de la concorde? Meilleur signe, c'est d'avoir rebaptisé la place de la Concorde. Mais c'est toujours quand la chose manque qu'il faut mettre le mot, comme disait Monterland. Parce que la Concorde manque, il fallait trouver un mot de ce genre. Après avoir coupé la tête du roi, j'ai l'impression que la République n'assure pas la Concorde minimale maintenant.
Mais est-ce que cette République, souvent, ne va pas au bout de son aboutissement? Voilà. Parce que cette république, notamment avec l'immigration incontrôlée, involue, Mélenchon n'en cache pas, hein, il se compare toujours. Mélenchon, son modèle, c'est Robespierre. C'est-à-dire que, soi-disant qu'on est français, en fait, c'est pas tout à fait vrai. On n'était pas français automatique quand on arrivait en France, même sur Robespierre. Ça, c'est également une invention ou une ignorance de Mélenchon. J'hésite toujours entre les deux. Mais est-ce que cette république, en quelque sorte, absolue, sans limites, sans frontières, en fait, est-ce qu'elle n'a pas abouti, elle n'est pas morte de sa contradiction en se voulant universelle?
Là, vous la voyez morte, carrément.
Elle se veut universelle pour des gens qui, eux, refusent l'universalisme, de toute façon.
Oui, ça ne peut pas marcher.
C'est certain, vous savez.
Elle était justement faite pour contrebattre le communautarisme et elle l'a réinstallée depuis 30 ans ou 40 ans.
Et mettre à mal le catholicisme en France. Le catholicisme et aucune autre religion, en quelque sorte. Et elle en arrive à promouvoir l'islam. Vous savez, le mot de Chateaubriand, chasser le catholicisme, vous aurez l'islam. Donc, visiblement, Mélenchon, en quelque sorte, joue également un rôle totalement contradictoire, puisque quand vous prenez les fondements de l'islam, notamment de l'islam radical, le mouvement politique qui est le plus opposé, c'est la France insoumise, c'est un mouvement marxiste. L'islam déteste le marxisme, puisque le marxisme est fondé sur le matérialisme.
Mais il n'y a aucune cohérence autre
d'aller chercher du chaos. Et puis Mélenchon en trotskiste, ça c'est pas tout à fait nouveau, hein. L'alliance mondiale entre les trotskistes et les frères musulmans, qu'on a vu notamment aux États-Unis un peu partout,
c'est vrai,
vient du fait que les trotskistes sont toujours qui sont en fait des bourgeois, hein, tous. On n'a jamais vu un trotskiste qui soit né ou qui a vécu longtemps avec un marteau ou un tournevis ou une faux dans les mains.
On va revenir sur l'antifascisme.
Voilà, et en fait, le trotskiste, si vous voulez, dans sa hargne, sa haine de la société, sa haine de lui-même, hein, je rappelle quand même, lisez un peu les mémoires de Trotsky, ça sert toujours. Trotsky parle, premier chapitre, dit que c'est un petit-fils, un bourgeois, issu de la grande bourgeoisie juive, russe, il arrive, et puis il y a un petit pauvre qui arrive, qui le voit dans son beau costume et lui crache dessus. Donc Trotsky, c'est quelqu'un psychologiquement qui a toujours été mu par la haine de soi. Eh bien, les trotskistes, par la haine de soi d'où ils sont venus, ils recherchent toujours un prolétariat de substitution. Voilà, sauf que finalement, ce prolétariat de substitution n'est pas n'importe lequel, notamment, et ce prolétariat finira par l'avaler, parce qu'il y a une étape suivante, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez, ça a déjà commencé, mais les quelques élus dits français de souche qui ont été élus avec la France insoumise, seront bientôt grands remplacés. Oui. C'est bien évident, parce que, souvenez-vous, ces mots de Rima Hassan sur une estrade à Montreuil, où, face à Mathilde Panot, qui en devenait blanche et qui a eu un rictus, Rima Hassan a dit: finalement, le drapeau, un jour, c'est nous qui allons le tenir. Sous-entendu.
Le nôtre.
Voilà, c'est-à-dire le nôtre. Ce sera. Vous n'êtes en fait que de passage, quoi.
Oui. Et je me demande s'ils vont pouvoir tenir dans des conditions pareilles leur municipalité. C'est 10 ou 12 maires, alors Roubaix, Mantes-la-Jolie, on les énumère depuis quelques jours. Chaque fois, la passation se passe dans des conditions complètement contraires à la coutume dite républicaine. Cette république est en train de faillir sous nos yeux sans que rien, hélas, la remplace. Enfin, dans mon esprit, il y a bien quelque chose qui pourrait la remplacer, c'est le roi qui rétablirait l'autorité d'un seul coup et la verticalité et l'impartialité de l'État. Mais la perspective n'est pas pour après-demain matin, ni même, même la semaine prochaine.
Si vous me permettez, pour le Marie Couteau, vous qui êtes un fin lettré, je ne sais pas si vous avez lu ce roman de Jean Raspail qui s'appelle Cire.
Ah bah évidemment qu'il s'appelle lu Cire. De Jean
alors c'est peut-être vous qui allez nous en parler. Qu'est-ce qui se passe dans Cire? Eh bien, dans une France totalement délabrée, aux mains notamment des gangs, de l'islamisation.
Que se passe-t-il?
Eh bien, un roi imaginaire vient se faire couronner avec deux vieilles femmes, notamment, qui sont issues d'ailleurs, qui sont des Antillaises chrétiennes.
Écoutez, je ne veux pas dire pourquoi Cire est mon livre de chevet en ce moment, parce que je suis en train enfin de finir un livre qui n'est pas d'une inspiration si lointaine.
Bon. Voilà, Cire, en fait, établit véritablement que, en fait, un roi, si vous voulez, vient se faire couronner pour la forme dans une basilique de Saint-Denis qui reste protégée par ses femmes, hein, d'origine antillaise, ferventes chrétiennes, qui finissent malheureusement par se faire assassiner, mais que le roi vient quand même se faire couronner. D'ailleurs, c'est même un contresens historique, parce que le roi n'a jamais été sacré à Saint-Denis. Saint-Denis, c'est plutôt la mort des rois, mais c'est plutôt à Reims. Mais il parle justement de Saint-Denis, peut-être justement parce que Saint-Denis déjà était pressenti comme une espèce de ville particulière. Hein. Saint-Denis, c'est un peu le Kosovo de la France. C'est-à-dire que le berceau historique de la nation serbe est au Kosovo, et qu'il est aujourd'hui peuplé en quasi-totalité d'Albanais. C'est, C'est un petit peu une sorte de Kosovo. Si
alors,
on
je
veut,
pense voilà. que Pierre va nous parler de cette affaire de grand remplacement.
Bah, écoutez, là, on sait très bien qu'on a affaire à un islam conquérant. De toute façon, ça, l'islam est conquérant, on sait bien. Il y a le territoire de l'islam, et le territoire qui n'est pas de l'islam, c'est le territoire de la guerre. Et donc, effectivement, tous ces propos, toute cette exubérance violente que l'on a pu constater ces derniers jours, dans ces prises de mairie, ça annonce évidemment peut-être que ça annonce effectivement une violence beaucoup plus grande.
Mais voilà, c'est ce que je crains.
Et de toute façon, on a vu dans l'histoire que quand un peuple veut remplacer un autre peuple, ça se passe jamais dans la discussion de la concorde. Les Américains ont complètement éradiqué les Indiens. Hein, c'est un crime contre l'humanité, mais extraordinaire. C'est d'ailleurs bon. Enfin voilà, c'est pas attribué.
C'est le crime fondateur.
Voilà. Bon. Alors après, d'ailleurs, ils ont fait Nagasaki et Hiroshima, qui était quand même pas mal non plus dans cette matière. Les Afrikaners ont effectivement pris la place des Bushman, mais ça a raté. Alors que les Américains, ça a réussi. Ils ont réussi à éradiquer les Indiens.
L'exemple de l'Afrique du Sud est bonne, puisque maintenant, c'est les Blancs qui sont supprimés. Alors, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cohabitation possible.
Non, aucune. Et puis, alors,
c'est le même exemple à l'envers.
Exactement. Et puis, par exemple, effectivement, les Juifs en Palestine. Là, c'est une lutte à mort.
Oui.
Il n'y a pas de
cohabitation.
Ouais. Il n'y en a pas. Donc, quand je dis les Juifs, c'est les Juifs sionistes.
Parce qu'il y a quand même quelques Arabes en Israël. Mais...
Donc, cette violence que l'on a vue à propos des municipales, c'est une violence qui annonce, j'espère pas, mais qui vraisemblablement annonce une violence beaucoup plus concrète et beaucoup plus radicale.
Sans venir tout de suite au Liban, on peut aussi penser au Liban et au Paris libanais. Qui, c'est le ressort de votre livre, mon cher François Costantini, qui est difficile à tenir, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais restons encore en France, et tout de même, réfléchissons à ce qui peut se passer, parce qu'on voit bien que le thème de l'antifascisme, j'en viens à votre conférence, tient lieu de philosophie grandiose, ou prétendument grandiose, enfin de trait d'union à toute l'idéologie dominante, en fait. C'est un peu la conclusion de la conférence que vous délivriez, François, au Cercle Aristote. L'idée était qu'il n'y a pas de consistance à l'antifascisme autre que celle du paravent donnée par quelques bourgeois. Vous disiez d'ailleurs que sociologiquement, les antifas étaient plutôt des fils de bourgeois, et plus souvent, des fils de fonctionnaires.
Oui, il y en a un, celui qui avait attaqué une voiture de policier, s'appelait Antonin Bernanos. On en trouve un descendant de Bernanos.
Peut-être pas un descendant de Bernanos.
Il avait une parenté avec Georges Bernanos.
Parce qu'il avait beaucoup d'enfants, Bernanos.
Entre autres. Voilà.
Je crois qu'on a dit qu'il y avait parmi les assassins de Quentin, il y avait le fils de magistrat, je ne sais pas si c'est confirmé ou pas.
Oui, c'était des fils de famille, notamment de la branche lyonnaise. Hein, qui...
Et il y a aussi chez les antifas de choc, c'est-à-dire les milices
les
de
Black
Soros,
Bo- Black les Black Blocs. Black Blocs
oui, enfin, une bonne ouais. tripotée
en,
de bourgeois.
En remarquant qu'il n'y a pratiquement aucun jeune issu de l'immigration, il faut quand même le souligner, parce qu'on accuse des fois, c'est pas faux qu'il y a un certain nombre de jeunes qui sont... Dans la délinquance, sont surreprésentés, sans dire que tous sont délinquants et criminels, mais ils sont quand même surreprésentés dans la criminalité de l'enfance. Vous n'en avez pas un chez les antifas, ce qui montre bien le mépris qu'a également cette nouvelle France de Mélenchon, que Mélenchon va avoir du mal à gérer.
Défenseurs,
voilà, ils ont un Ben Rima Hassan a dit d'ailleurs justement, les antifas, la jeune garde, tout ça, c'est des petits bourgeois blancs. Voilà.
Elle a dit ça.
Ben Rima Hassan, il faut l'écouter. Vous savez, déjà, il faut toujours écouter ses adversaires, encore plus ses ennemis.
C'est stupéfiant qu'elle dise ça.
Et je pense que ce que dit Rima Hassan est révélateur, parce que Rima Hassan, c'est l'étape d'après dans la France insoumise.
Ouais, ouais. Voilà. Mon Dieu, ce qui est terrible aussi, c'est que il y a même du racisme dans ces troupes antifa, selon le témoignage d'un repenti de Lyon, qui a été interrogé assez longuement par un jeune journaliste dont j'ai oublié le nom, de Frontières. Je ne sais pas si vous avez vu ça, c'est un reportage de Frontières qui a trouvé un jeune homme d'origine vietnamienne.
Oui, oui.
Vous avez vu ça, qui a trouvé que ça allait trop loin et qui finalement s'est confié et a un peu expliqué ce en quoi consistait la phalange, on peut dire phalange, par référence encore une fois au Liban, la phalange Antifa. Alors ça consistait, disait-il, ça m'a fait froid dans le dos, à contrôler les gens dans les rues, dans les quartiers chauds. Alors on les contrôle. Par exemple, quand ils ont les cheveux très courts, on les arrête, on regarde même leur téléphone, quand ils sont plusieurs sur un personnage isolé, pour savoir quel site ils suivent, quel est leur réseau, et puis si ça va, ils passent, sinon ils se font casser la figure. C'est,
oui, mais c'est connu, en fait l'extrême gauche...
Ça, c'est les socialistes... les socialistes... mode nazi en Allemagne dans les années...
Non, mais l'extrême gauche trotsky, c'est connu pour... vous savez, c'est pratiquement... Il y a un côté de fonctionnement secteur. Ils contrôlent, ils fichent et ils fliquent littéralement tous leurs adhérents qui ont même des noms d'emprunt. Il y a quelques années, je me rappelle, il y avait une scission au sein de la lutte ouvrière. Pourquoi ? Parce qu'il y avait eu une université d'été et qu'il y avait des caravanes et qu'il y avait des couples qui avaient dormi ensemble. Or, c'était prohibé.
Interdit.
C'était prohibé chez lutte ouvrière.
C'est incroyable.
Vie personnelle la plus intime est passée au peigne fin et au microscope chez ces gens-là. Il faut le savoir.
Oui, c'est bien ce que disait aussi ce jeune...
Ça n'a rien à envier au groupe fasciste.
C'est ce que disait ce jeune repenti de la jeune garde de Lyon qui disait au micro de Frontières que lui-même étant de deux parents vietnamiens était assez bronzé. Et qu'il avait l'impression, même quelquefois c'était explicitement dit, que les chefs de sa phalange le traitaient comme moins que rien parce qu'il n'était pas français.
Ah, bien sûr.
Un antifa.
Mais vous savez, les insultes complues, vous savez notamment que la mère de, je crois, alors c'est plus de Vaux-en-Velin ou de Vénissieux, Hélène Geoffroy, qui est d'origine antisocialiste, a été la cible par l'extrême gauche d'un jeu raciste. Mais ça a été tué dans les médias, etc. Ouais. Voilà, c'est-à-dire, négresse de service, négresse blanche, etc. Elle a entendu voler tout ça, quoi, quand elle est partie, voilà. Oui. Il faut le savoir aussi.
Mais ces images m'ont fait peur, franchement. Je crois même qu'il y a eu un reportage, je n'ai pas la télévision, mais un journal télévisé qui a montré dans quelles conditions se faisait la passation de pouvoir, qui d'habitude se fait cordialement. Le maire qui sort, d'ailleurs ça s'est fait comme ça à peu près partout en France, il faut le dire encore aujourd'hui. Le maire qui sort est salué par le maire élu, ne se fait pas toujours avec une telle animosité. Mais LFI introduit une sauvagerie qui peut se répandre.
Non, ils ont ressuscité, en fait, LFI c'est 1793, oui. Sauf qu'à la place des sans-culottes et des tricoteuses, qui interrompait les sessions. Il faut rappeler quand même qu'en 1795, ils sont allés quand même, les hordes de sans-culottes qui restaient sous la convention thermidorienne, ont quand même décapité un député qui s'appelait Ferro. Je ne sais pas s'il avait une parenté avec l'actuel adjoint que Madame Hidalgo voulait mettre à la place de M. Grégoire. Mais ils ont décapité en pleine séance et porté au municipe le député Ferro. Sauf que la tricoteuse et le sans-culotte sont remplacés par l'antifa et éventuellement la militante islamiste voilée, etc. Voilà, oui. qui ont pris la place dans ces troupes de choc.
C'est bien,
de
ce qu'on a vu d'ailleurs, ces antifa en 2024. Ces antifa, ils ont fait une union large, ça s'appelait le NPD.
Le nouveau Front Populaire. Non, c'est-à-dire que toute la gauche s'est unie.
Et y compris d'ailleurs.
Oui, c'est-à-dire que M. Hollande s'en défend.
La droite en peau de lapin.
Oui,
regardez par exemple en Essonne, c'est un député LR qui a appelé à voter.
Mais bien sûr.
Enfin, un candidat LR qui a appelé à voter contre Nicolas Dupont-Aignan à Hyères. Il a été battu. Alors saluons sa réélection à Hyères.
À 80%,
oui. À 79%. Ouais. Magnifique. Il y a 8 jours. Ouais. Nous sommes très heureux pour Nicolas Dupont-Aignan. Bien entendu, je l'ai chaudement félicité. Mais il avait été évincé, non pas de la mairie, mais de son siège de député. Ouais. Par le fait que le candidat LR...
C'était maintenu.
Non, je crois qu'il s'était retiré et appelé à voter LFI au nom de l'antifascisme,
Monsieur Laurent Wauquiez, dans la première circonscription de Haute-Loire, se retrouve face au candidat du Rassemblement National, Alexandre Rezé à l'époque, et il ne dénie pas, notamment, il n'a pas renié le soutien, le vote de la France Insoumise en sa faveur. Voilà, Monsieur Wauquiez, avant de faire l'union des droites... Il a fait l'union antifasciste, il faut le savoir.
C'est le syndrome allemand qui fait le lit des néo-nazis. Mais puisque vous faites référence à la Révolution, votre érudition, mon cher François, n'est jamais prise en défaut. On peut ajouter que lorsqu'il est entré à l'OCI, l'Organisation communiste internationale ou internationaliste, je crois dans les années 70, Jean-Luc Mélenchon a dû prendre...
Senteur.
Voilà, a dû prendre un pseudo, comme son compagnon Lionel Jospin.
Qui était Michel.
Le défunt Laurent Jospin a pris un pseudo qui était Michel. Lui, il a choisi Santerre. Alors, vous savez qui est Santerre?
Ouais, c'était celui qui faisait rouler les... C'est celui, en fait, qui commandait la garde lors de l'exécution de Louis XVI.
Ça, c'est le pseudo choisi voilà. par Mélenchon.
Et en fait, parce que la foule voulait acclamer, en fait, Louis XVI. A fait rouler le ballement de tambour pour qu'on n'entende pas la foule qui était hostile à l'exécution de Louis XVI. Ouais.
Oui, c'est ça. Et ensuite, il est allé en Vendée, où c'est signalé par des exactions terribles. À plusieurs reprises, au moins une fois, je ne sais pas si ce n'est pas à Luc-sur-Mer, je ne sais pas, il a fait enfermer femmes et enfants dans une... ça sera fait plus tard par les nazis, comme ça tout
est clair. Oui, dans des véritables chambres à gaz.
Dans une...
On a mis le feu, etc.
Dans une grange à laquelle il a fait mettre le feu.
Oui, bien sûr.
Eh bien, c'est ce Santerre-là que choisit, au moins pour pseudonyme, Jean-Luc Mélenchon quand il entre à l'OCI en 1972-73 à Massy. Et ce type qui ensauvage la France, sciemment, sans logique, comme vous le disiez, sans logique idéologique en réalité, mais simplement dans l'idée qu'il prendra le pouvoir à la faveur de désordre et
d'un cataclysme dans les rues, oui, c'est certain.
Ce qu'il souhaite, évidemment, c'est l'élection, c'est pour ça qu'il ne faudrait peut-être pas la souhaiter nous-mêmes, l'élection d'un candidat, quel qu'il soit, du Rassemblement National.
Ah, personnellement, je la souhaite quand même.
Ben bon, oui, mais ouais. Regardez ce que vous aurez, mon cher.
Bon, écoutez, il ne faut pas céder à la menace, etc.
Oui,
enfin, et il faut relever le défi démocratique, et s'il le faut, le défi sécuritaire. Hein, voilà.
J'aurais bien évité cette guerre civile. Bref, et alors la guerre civile, vous en connaissez d'autant plus, mon cher François, que cette diaprure de communautés impossible à concilier, difficile à concilier, Pierre Lourse le rappelait tout à l'heure, le Liban l'a connu. Est-ce que ça pouvait marcher au Liban?
Vous savez, le vivre ensemble est un mythe. Il n'y a aucun peuple qui...
Mais il y a eu un équilibre quand même de 1922 qui a marché jusqu'en 1976, je crois.
Voilà, il n'y a aucun peuple qui vit en France. Croyez-vous que historiquement, les chrétiens maronites, les chiites, les druzes, les sunnites, je rappelle qu'il y a 18 communautés hein, au Liban. Oui. Et en fait, les gens, avant même de se reconnaître chrétiens ou non, se reconnaissent dans leur communauté.
Oui, il y a les orthodoxes aussi.
Il y a une hostilité. D'ailleurs, il y a beaucoup plus d'hostilité entre sunnites et chiites qu'entre chrétiens et musulmans. La preuve en est, c'est que vous n'avez aucun village sunnite et druze. Chiites et druzes ou sunnites et chiites, mais il y a des villages chrétiens et sunnites, parce que les musulmans entre eux, le vivant ensemble, ils ne connaissent pas. En fait, les peuples n'ont jamais le vivant. Qu'est-ce que c'est que le Liban? C'est d'abord le mont Liban, c'est un lieu de refuge qui a servi de recueil à toutes les communautés persécutées, les premières étant les chrétiens maronites,
toujours la géographie.
Qui étaient persécutées, elles, par Byzance.
Parce et réfugiés dans les montagnes.
Oui, réfugiés, voilà, parce que les maronites, le palobier, ont toujours été latins, rattachés au pape, n'ont jamais connu de scission entre l'orthodoxie, jamais voulu reconnaître le patriarche de Constantinople, notamment, et ils ont toujours un tropisme occidental, d'ailleurs qui remonte, à mon avis, même au côté latin des Phéniciens, puisqu'il faut savoir que le Liban, en Orient, est la seule terre qui a été réticente à l'hellénisation. C'est une curiosité, à mon avis, qui n'est pas innocente, dont je parle dans mon livre. Il y a un tropisme occidental chez le Phénicien et chez le Libanais. Ensuite sont venues les minorités persécutées de l'islam, hein, les druzes, et puis les chiites également, qui étaient persécutés par les arabes, par les empires arabes, et par les ottomans.
Et
à l'origine, vous avez beaucoup de chiites. Donc ils n'ont pas choisi de vivre ensemble, si vous voulez. Ils sont trouvés réfugiés, et puis on a essayé en effet de trouver des accommodements entre ces communautés. On a trouvé le système confessionnel.
Ça marchait plus d'un demi-siècle.
Mais le système confessionnel, si vous voulez, il a des inconvénients, c'est qu'il peut sembler un peu injuste.
Le statut de 22, je crois.
En effet, Constitution 1926, oui.
26.
Il peut sembler injuste, il peut en effet nier les droits individuels de la personne, mais il a un avantage, c'est que grâce au confessionnalisme, vous avez déjà un président de la République qui est maronite, c'est très important. Vous avez un chef de l'État, même avec des prérogatives édulcorées, depuis les accords de Taif 1990,
c'est le chef de l'État.
Il est quand même chef de l'État, et en effet, ça empêche notamment l'islamisation. Vous avez une parité au Parlement, 128 députés, 64 chrétiens, 64 musulmans, et 30, au Conseil des ministres, 30 ministres, 15 chrétiens, 15 musulmans. Vous avez un équilibre, non seulement entre chrétiens et musulmans, mais à l'intérieur des communautés. Et c'est cet équilibre qui fait que chacun se sent représenté, et que les chrétiens, justement, échappent à la menace existentielle qui est celle de la dimitude.
Alors, vous avez donné, mon cher François, des cours pendant 2 ans, je crois, à l'Université Saint-Joseph.
10 ans.
Dix ans, oui. Pour ça que vous connaissez si bien le Liban. Nous avons en ligne une autre personnalité, bien connue de tout le monde, sur Radio Courtoisie. C'est Philippe de Saint-Robert qui est avec nous, je crois, par la magie du téléphone. Vous êtes là, mon cher Saint-Robert?
Oui, mon cher, je suis là, je vous écoute.
Bon, alors, en fait, écoutez, est-ce que vous accepteriez que l'on écoute, avant que nous parlions ensemble du Liban, avec François Costantini et Pierre Lours, est-ce que vous accepteriez d'écouter quelques notes de musique après un bobino?
Oh, bien sûr.
À tout de suite.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Alors, la semaine dernière, nous entendions avec Antoine Assaf la fameuse Fayrouz. Et cette fois, c'est un chant de Sœur Marie Kayrouz que nous entendions. Et c'est toujours difficile de couper la musique dans ces émissions parce que c'est peut-être le meilleur moment. C'est un moment de paix, en tous les cas. Alors, mon cher Saint-Robert, vous connaissez bien le Liban, vous aussi. Vous êtes là?
Je connais bien le Liban, mais je ne peux être que triste, qu'est-ce que vous voulez?
Ça fait 50 ans qu'on s'attriste sur le Liban. Oui.
Rien n'arrêtera Netanyahou. Quand il massacrait les Gazaouis, ça suscitait quelques indignations, mais là, ça n'en suscite même pas. Il peut annexer le Golan, la Cisjordanie, le Liban, personne ne dit rien. Mais on s'indigne parce que la Russie récupère la Crimée. Il y a de quoi rigoler, non? Enfin.
Alors peut-être que mon ami François Costantini vous objectera que le Liban n'est pas complètement en dehors de ce conflit et que partent du Liban au bon soin du Hezbollah quelques fameux missiles à direction d'Israël. C'est le drame.
Bien sûr, évidemment, mais qu'est-ce que vous voulez? Il fallait s'y prendre avant si on voulait l'empêcher. On a tout laissé faire, alors maintenant c'est trop tard. On a tout laissé faire. L'État libanais n'a jamais voulu, l'armée libanaise ne peut rien faire. Elle est trop composite. Et je me souviens qu'il y a quelques années, je sais plus si c'est le temps du général ou
pas. Vous me disiez qu'à une époque.
On avait donné des armes à l'armée libanaise. Elle nous a rendues parce qu'elle ne voulait pas s'en servir. Alors elle s'est arrêtée.
Cette anecdote est corroborée par François Costantini, qui est près de moi et qui hoche du chef, qui opine du chef.
Absolument. Je ne sais plus très bien à quel moment c'était, mais voilà. Alors, ça illustre tout, qu'est-ce que vous voulez que je dise?
Bon, alors,
mais les grandes puissances, dit-on, Monsieur Trump pourrait dire à Netanyahou, ça suffit. Mais il est tellement entre ses mains qu'il ne le fait pas.
Ça fait 50 ans, mon cher Saint-Robert, depuis les années 70, qu'on s'inquiète du Liban. Je me souviens que vous y êtes allé à l'époque où j'avais la joie, l'honneur et l'avantage de vous servir au commissariat général de la langue française. Vous avez fait une conférence à l'université Saint-Joseph, où officia 10 ans durant François Costantini. Déjà, on était inquiets. Est-ce que le Liban n'a pas en lui-même, d'après vous, une force de... On dit de résilience maintenant, c'est un mot un peu à la mode. Malgré tout, le Liban n'est pas submergé.
Non, mais on verra bien, mais que vous voulez faire? Rien n'arrêtera Netanyahou, c'est un fou. Alors, rien n'arrêtera.
C'est du messianisme, c'est plus de la politique.
Oui, c'est plus de la politique. Il est comme les Iraniens, finalement. Ils sont pareils. Alors, quand vous avez des gens comme ça qui s'affrontent, nous ne pouvons rien. Parce que nous sommes dans un monde beaucoup plus rationnel.
Oui, ce n'est pas le même monde. Voilà. Je vais vous poser une question. Ouais. Philippe de Saint-Robert, allez-y, pardon. Oui, je vous coupe, allez-y, poursuivez.
Moi ?
Oui, je vous ai coupé à l'instant, pardon.
Non, mais je ne disais rien, attendez vos questions.
Ah bon ? Alors, la question est la suivante. Je l'ai déjà posée la semaine dernière, mais j'ai ma petite bicyclette et je suis obstiné. On dit que la France ne peut rien, et vous venez encore le dire, on n'y peut rien. Mais, je répète, il y a d'abord une force d'interposition dont les jours sont comptés, hélas, qui s'appelle la finule.
Oui, mais elle n'a pas de rôle.
Mais je me souviens... Je me souviens que justement, une force d'interposition, à ce moment-là, j'étais auprès de Boutros Ghali à l'ONU, j'ai bien vu, en Bosnie, avait outrepassé son rôle. Ça a été la gloire d'ailleurs d'un général français qui avait pris l'initiative d'outrepasser son rôle et de s'interposer, alors même que l'ONU n'en avait pas donné le mandat. Je crois que c'était j'ai même oublié le nom du général, il vient de mourir d'ailleurs, il était député européen, Morillon. Il avait pris sur lui de s'interposer. Et pourquoi ne pas utiliser les soldats français de la finule, couverts par la mer? Ce fameux Charles de Gaulle au large de Beyrouth, c'est ce que je disais la semaine dernière, il pourrait assurer une fameuse couverture. Et est-ce qu'il n'y a pas moyen, je pose la question à l'un et à l'autre, je vois le regard un peu sceptique de mon ami François, s'interposer et faire en sorte que le Liban arrête ses exactions en même temps que celle du Hezbollah.
Mais cette force est sous l'ordre de l'ONU, c'est pas nous qui pouvons lui donner des ordres, voyons.
Enfin, la marine française n'est pas sous les ordres de l'ONU.
C'est une émanation de l'ONU, cette force. Alors, nous n'avons aucune autorité sur elle.
Mais pas la marine française.
C'est pas parce qu'il y a des soldats français dans la finule que nous avons une autorité sur elle.
Non, mais je parlais de couverture par la marine française qui est autonome et qui est à la main du président de la République française. À force de dire que la France ne peut rien faire sur aucun théâtre d'opération, on va se demander pourquoi elle a l'armée et une existence.
Évidemment, on pourrait rétablir notre protectorat sur le Liban.
C'est, sûr, c'est pas l'occasion.
Il nous le demande.
François,
c'est pas tellement dans l'air du temps.
Pour moi, je ne cache pas que entre 1920 et 1943, le mandat français, un mandat, c'était pas un protectorat, c'était un mandat au nom de la SDN, c'était des nations. Et en fait, ce mandat, vous savez, il y avait les A, B, C, et c'est le mandat, le A, c'est-à-dire les mandats des pays les plus avancés pour accéder à l'indépendance. La France était en charge de bâtir des institutions, de mettre en force des pouvoirs et de favoriser l'indépendance. Et quand vous regardez cette période, c'est peut-être la période la plus bénie du Liban.
Et oui.
C'est-à-dire que la France était là, organisait le pays devenu prospère, tous les ratios en termes de bien-être augmentés, hein, l'éducation, les réactions sous la pauvreté, le commerce, l'enrichissement, c'est une époque nostalgique. Regardez, par exemple...
Faisait très bon vivre à Beyrouth,
Un très beau livre qui s'appelle « Mémoire des cèdres » de Jacqueline Massapi et François Porel. Et puis Jacqueline Massapi et François Porel, « La mémoire François des cèdres ». Et puis, plus près de nous, je pense que vous appréciez Philippe de Saint-Robert et vous, ce grand écrivain qui était Pierre Benoît, qui a écrit notamment « La châtelaine du Liban », qui est un...
Bien sûr, bien sûr. Bien sûr.
Qui est un livre qui évoque ce Liban de l'époque du mandat. Et puis souvenez-vous, hein, le général de Gaulle a séjourné quand même deux ans là-bas.
Deux ans.
Hein, oui, oui. Vers l'Orient compliqué, il partait avec des idées simples.
29 et 30, je
mais
crois.
Et on a de très beaux discours de lui aux Libanais pour leur les exhorter à se constituer en État.
Oui,
bien sûr. Hein, il disait que le peuple libanais, dont le cœur n'a jamais cessé de battre pour la France. Hein, il paraît oui, cette relation. Et je pense ouais. qu'en effet, même beaucoup, si vous demandez aujourd'hui à beaucoup de Libanais, notamment chrétiens, ils sont infiniment nostalgiques de cette époque du mandat français.
Voilà. Je sais, mais enfin, malheureusement, que je disais en riant qu'on pourrait le rétablir, mais c'est guère possible. Enfin, c'est pas dans l'air du temps. Point.
J'ai toujours pensé que si la France usait de la force, je pense qu'elle laisserait baba tous les protagonistes.
En tout cas, la seule
ça impressionnerait tout le monde.
Voilà.
La
seule possibilité de désarmer le Hezbollah, ce n'est pas l'armée libanaise qui a été formatée par les Syriens et ensuite, il faut savoir, qui est quand même gangrénée par le Hezbollah à tous les niveaux, y compris dans les services de renseignement. En plus, l'armée, M. Saint-Robert l'a dit, elle est composite. Même s'il n'y a plus les brigades confessionnelles comme avant 1990, le commandant en chef de l'armée, Rodolphe Heikel, a bien dit que lui, il ne voulait pas un bain de sang et il ne voulait pas surtout un éclatement de l'armée libanaise, qui est aujourd'hui la dernière institution qui tient l'État libanais, il faut quand même le savoir. Mais aujourd'hui, une force internationale de type KFOR, on est quand même, souvenez-vous, on a quand même mis les forces qu'il fallait pour aller désarmer les Serbes chez eux, au Kosovo, avec la KFOR.
Et voilà.
Et on a tiré sur les Serbes. Qui étaient pourtant, eux, chez eux, au Kosovo. Et là, on n'est pas capable de mettre en place une force multinationale, avec notamment une mission. Oui, avec une mission contraignante. Ouais.
Oui. Philippe de Saint-Robert.
Je voudrais tout de même rappeler que le Hezbollah s'est constitué à la suite de la première occupation israélienne du Liban. Ça a été la réponse. Il faut le savoir.
Oui. Mais à ce moment-là, les chiites étaient organisés autour d'une autre organisation qui était Hamal.
Il est né de cela.
Oui.
Il est né de cela. Voilà.
Mais l'intervention.
Je t'avais dit Hamal, c'est autre chose.
C'est chiite aussi, oui. Oui, mais cette création du Hezbollah, en effet, consécutivement à l'occupation déjà, puisqu'elle est récurrente d'une partie sud du Liban par Israël. Cette occupation suivait une occupation par des réfugiés palestiniens. Donc on est très lié depuis le départ. Oui, oui. L'élément de déstabilisation, c'est Israël depuis le début.
Excusez-moi, les Palestiniens qui se sont réfugiés au Liban, c'est les mecs qui se réfugient quelque part, ils n'ont pas fait la guerre.
Ils ont fait la guerre aux Libanais et aux chrétiens, ça oui.
Oui, fallait bien qu'ils aillent quelque part.
Oui,
on n'a jamais voulu faire l'État qui leur était promis. Alors il faut savoir pour eux.
Mais c'était pas aux Libanais de payer ça. Voilà.
Ouais. C'est vrai que l'État était promis dès 1948.
C'était aux gens qui avaient promis ce pays aux Palestiniens qu'ils ne leur ont jamais donné. Alors il ne faut pas s'étonner de tout ce qui se passe après, voyons.
C'est quand même
une grande responsabilité là-dedans.
C'est vrai que
c'est grande puissance.
La résolution qui crée Israël crée deux États en réalité, mais jamais le second État.
On l'attend toujours.
Sachant que les Palestiniens ont refusé le plan de partage, hein, ce qui a conduit au premier conflit sur l'Europe.
Ils ont foutu dehors à côté là. On n'a jamais consulté.
Il ne faut pas oublier.
Les Anglais ont outrepassé leur mandat sur la Palestine en décidant de créer ce foyer juif qui ne devait pas être un État. Point. Et alors à partir de ça, on les a fichus dehors. Sans jamais les consulter. Alors, c'est pas étonnant qu'ils aient refusé.
Non, le foyer juif, cher monsieur, le foyer juif, c'était 1917, déclaration Balfour, et le mandat sur la Palestine, c'est la conférence de San Remo en 1920. Donc le mandat est postérieur à la déclaration Balfour.
Ça ne donnait pas droit aux Britanniques de faire ce qu'ils ont fait.
Les Britanniques ont été très changeants dans cette affaire, à mesure des influences
qu'ils ont changé tout. Les Britanniques ont eu à peu près, Henri Laurence le démontre dans ses 5 volumes sur la question de Palestine, donc j'ai terminé il y a quelque temps la lecture, ont à peu près eu une demi-douzaine, si ce n'est pas une douzaine de solutions sur la Palestine.
Oui. Le caractère changeant de la politique britannique est criminel, mais il a changé apparemment au fur et à mesure qu'évoluaient les influences, il faut le dire, des sionistes à Londres. Voilà, c'est surtout l'influence des groupes sionistes de Londres qui modifiait l'attitude des Britanniques.
C'est peut-être là, d'ailleurs, le cours de la Seconde Guerre mondiale aussi n'est pas étranger. Hein. Les cours qui ont été pris pendant la Seconde Guerre mondiale ne sont pas étrangers du tout également à tous les revirements britanniques. Hein.
Alors, mes chers amis, Saint-Robert, dernière question.
Je suis content des élections municipales.
Ah, dites-moi, si vous voulez, revenons aux élections municipales. Je ne pense pas que vous soyez... Je sais que vous êtes rentré de Suisse, où vous étiez bon citoyen pour voter à Paris.
C'est le bal des faux culs, oui, c'est le bal des faux culs. C'est l'extrême centre qui se plaint des extrêmes alors qu'il les a fabriqués. C'est drôle. Et alors, on a les faux culs, c'est le PS et le LR, et les LR, ça c'est vraiment les parfaits faux culs. Hein. Alors, c'est extraordinaire. Alors, les LR, c'est une bande de vieux schnocks incroyables qui ne savent pas où ils sont, qui ne savent plus qui ils sont, et qui osent encore se réclamer du gaullisme. J'entends ça quelquefois.
Ils ne se réclament même plus, mon pauvre ami. Mon cher maître, ils ne se réclament plus.
Ils disent encore ça, voilà. Alors, qu'est-ce que vous voulez ? Les extrêmes se sont constitués à cause de leur impéritie à tous.
Oui.
Voilà, c'est tout. Alors maintenant, ils s'en plaignent, ben voilà. Et ils ne savent pas gérer le problème, évidemment. C'est pas étonnant.
Et ils en subissent les conséquences directes, qu'ont fait Rachida Dati, qui était en but, elle aussi, dans son quartier de campagne dimanche, qui a à peine pu faire sa déclaration pour reconnaître sa défaite, parce qu'elle était huée par des bandes de LFI qui entouraient son siège.
D'Antifa, oui, parce qu'il y a des... Les Antifa, LFI n'a pas le mot pour les Antifa, vous en avez, vous savez, les écologistes, il y a une feuille de papier de cigarette entre les écologistes et la France insoumise, hein. Les écologistes, ce sont des LFI qui broutent de l'herbe, hein, c'est tout.
Alors il n'y a plus de force nationale en France, c'est pas possible.
Mais écoutez, vous parlez des écologistes, Dieu merci, là, ils ont pris un gros bouillon, on est un peu tranquille. Mais pour le reste, si vous voulez, les vrais fascistes, c'est ceux qui dénoncent les autres. C'est ceux qui... Les fascistes, c'est les antifas aujourd'hui. Alors, il faut quand même voir les choses comme elles sont, voyons.
Pierre Paolo Pasolini, le fascisme reviendra dans l'histoire et il s'appellera antifascisme. Ce grand écrivain, dramaturge italien qui était Pierre Paolo Pasolini. Oui.
Alors, Saint-Robert et François, élargissons un peu le spectre. Où en sommes-nous exactement, selon ce que vous comprenez l'un et l'autre, de la situation au Proche-Orient, de cette guerre qui se prolonge entre l'Iran. Et accessoirement, j'ai une seconde question que je poserai peut-être plus à François Costantini. Il nous reste 5 minutes, donc soyez concis. Que font les Houthis ?
Ils ont, selon leurs propres termes, ils l'ont dit, le doigt sur la gâchette.
C'est encore une arme dont dispose Téhéran.
C'est Téhéran, ce qu'on appelle, j'aime pas ce mot-là. Hein. On dit, à courtoisie, on ne dit pas proxy, mais je dis courroie de transmission. Surtout devant vous, devant Monsieur Philippe de Saint-Robert et à courtoisie, je vais bannir un terme anglo-saxon que nous détestons l'un et l'autre, cher Paul-Marie, à plus forte raison.
Même le ministre des Finances, maintenant, parle en anglais sur les chaînes françaises.
Oui, alors. Bien sûr, c'est l'engagement. Les outils, pour le moment, restent de côté. Ils savent quand même, une intervention, c'est particulièrement dangereuse, parce qu'ils peuvent viser la mer Rouge, notamment.
Ils sont de l'autre côté. Ils ont la maîtrise du détroit de Babel...
De Tiran, le détroit du Tiran.
Tiran, c'est-à-dire de la mer Rouge,
oui,
qui est aussi une voie de circulation,
bien
de
sûr,
secours.
Qui sort notamment, où débouche le canal d'Alex de Suez.
C'est le Babel Mandeb, c'est ça ?
Oui, voilà, notamment.
Et s'il est bouché à la diligence des Yéménites.
Eh bien, vous ferez le bonheur des Sud-Africains. On refera comme au 19e siècle, on refera avant
le Cap de Bonne-Espérance.
On passera par le Cap. Ouais, voilà.
Mais ça va entraîner des désordres nouveaux dans l'économie mondiale.
Fondamentaux, pour le moment, les Houthis, parce que les Houthis, si vous voulez, il est quand même plus facile de les atteindre que le Hezbollah ou l'Iran en mer Rouge. En plus, l'armada américaine se déploiera plus facilement à partir de là.
Donc ils sont en réserve, voilà, comme dernière cartouche.
Ils l'ont dit en effet, mais pour le moment, alors sachons que les Houthis, contrairement au Hezbollah ou aux milices chiites irakiennes, pro-iraniennes, ne sont pas véritablement des artefacts de l'Iran. Ils ont une certaine autonomie stratégique, tout chiite qu'ils soient. Ils sont alliés avec l'Iran, mais ils ne sont pas des créatures de l'Iran.
Alors suivez, hélas, cette émission touche à sa fin. Nous pourrions poursuivre pendant des heures. Je ne sais pas si Pierre Lours peut ajouter un mot. Moi aussi, j'ai un mot à dire, et peut-être Saint-Robert, mais je pense qu'on va nous couper le sifflet, mes chers amis.
Oh, juste pour...
Oui, mais écoutez... Moi, je pense que l'opération de Trump va échouer il va essayer de mettre fin à ce qu'il a fait et tout restera en sommeil pour se réveiller un peu plus tard.
Bien. Une minute, Pierre Lourdes.
Oh, je voudrais juste me poser une question. Après l'éradication de Gaza et la guerre contre l'Iran, dira-t-on demain d'Israël qu'il a été le peuple élu et qu'il est devenu le peuple qui a chu et qui redeviendra peut-être le peuple errant?
Alors, écoutez, bien des questions. La question est énorme. Je suis content d'avoir pu vous rencontrer aujourd'hui. Merci François Costantini. Je renvoie à vos livres et à votre érudition qui n'est jamais prise en défaut. Merci Pierre Lourdes.
Non, je ne suis pas pique de la Mirandole.
Semaine prochaine. Mais qu'on regarde votre actu sur les sites, parce qu'on trouve toujours de bonnes choses. Vous avez un cerveau bien fait. Vous êtes un docteur en sciences politiques très, très vaillant. J'ai beaucoup d'admiration pour vous. Je vous le dis tout de go.
J'en ai beaucoup plus pour vous, Charles Pommard.
Bon, alors, c'est une somme de vieux amis, nous sommes contents de nous retrouver. Voilà, je signale que désormais, sur le site du Nouveau Conservateur, je mets en ligne chaque semaine, voilà, l'urgence m'a fait écrire mon journal. Alors, on peut le lire dans Mon Dévis, on peut le lire dans le Nouveau Conservateur, mais on peut le lire chaque semaine désormais sur le site du Nouveau Conservateur. Merci beaucoup, mes chers amis, et à la semaine prochaine.
Vous venez d'entendre les répliques du Nouveau Conservateur dirigé par Paul-Marie Couteau, diffusé en direct sur Radio Courtoisie mercredi 25 mars 2026 de 16h à 17h et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5€ par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal, commander le CD-ROM pour le prix front de port de 9€ ou 6€ seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.